maman, j'ai tant de chance de t'avoir pour moi le soir.
Vous êtes bien sur Radio Vassivière.
J'aimerais tant te parler de mes tourments.
Ici Émilie.
Que j'ai quand je suis seule dans le noir. Oh papa, s'il te plaît, raconte-moi encore cette histoire. Tu sais, toujours la même qu'à chaque fois. Je crois que je n'en aurai jamais marre.
Élève-toi
avec les enfants.
Si je vois des grands loups, de grands monstres avec des grandes dents partout.
Une émission pour les parents, les futurs parents, les grands-parents, tous ceux qui s'occupent d'enfants en famille ou en milieu professionnel, tous ceux qui ont envie de découvrir de nouvelles pratiques, nouvelles idées, se poser des questions, avancer pour offrir le meilleur aux enfants.
Radio Vassivière.
Et oui, Radio Vassivière, bienvenue pour cette 26e émission de Élève-toi avec les enfants. Ici Émilie, toujours au studio de Feltin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de apprendre à lire et à écrire. Bon, je remets un petit peu le contexte. Je suis une ex-instit de l'éducation nationale, mais aussi d'une école associative que j'ai créée, mais aussi d'une école dans une maison d'enfants, donc un site spécialisé auprès d'ados placés. Et actuellement, maman en école à la maison. Donc c'est aussi un sujet que j'aime bien, les apprentissages, que je n'ai pas trop abordé encore dans les Élève-toi avec les enfants. Il y a eu un entretien avec Philippe Ruellen au sujet des réunions d'enfants en école du troisième type. Voilà. Vous pourrez écouter ça dans les replays. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai réuni quelques notes sur ce que j'aimerais vous partager. Alors, je vais m'adresser autant aux parents que ceux qui travaillent dans les écoles, qu'aux parents aussi en école à la maison. Voilà, je vais balayer assez largement le sujet pour déjà mettre comment dire, un petit peu de clarté sur des choses qui ne sont pas forcément très claires. Donner mon avis aussi, je vais le faire. Et puis, donner des pistes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est parent pour aider les enfants dans ces apprentissages? Et aussi des idées pour les instituts, si on est à l'école, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Voilà, c'est parti. Alors déjà, première chose que j'aimerais lire, c'est que souvent, on fait, une petite erreur en se méprenant entre lire et lire à haute voix. Quand on va demander à un enfant de lire à haute voix, un texte, eh bien, on est déjà en train de faire une étape en plus. Voilà. Lire, ça se passe dans la tête, ça se passe avec les yeux. Et lire à haute voix, c'est une retranscription de ce qu'on a lu dans notre tête. Donc, ce qu'on souhaite déjà, c'est que l'enfant, il sache lire dans sa tête, avec ses yeux. Hein. Après qu'il vienne poser les mots, oraliser ce qu'il a lu, eh bien, c'est une autre étape. C'est vraiment deux choses différentes. Et souvent, on va mettre un peu trop la pression aux enfants pour qu'ils lisent directement à haute voix ce qu'ils ont sous les yeux. Et ça va donner des trucs un peu illisibles. Tu sais, tu mets les deux lettres ensemble, puis ça va pas, puis tu recommences, tout ça. Voilà. Donc non, déjà, on lit dans sa tête. On peut s'aider. Alors, il y a des enfants, ils aiment bien s'aider en faisant un petit bruit à voix basse pour commencer à combiner, voilà, chercher. Et après, si on veut lire à haute voix, eh bien, une fois qu'on a compris le texte, on va pouvoir le lire à haute voix. Mais c'est deux choses différentes. D'ailleurs, je pense à une petite chose. Il y a des études qui montrent que quand quelqu'un lit à haute voix un groupe, celui qui lit à haute voix, c'est celui qui a moins bien compris de toute la salle. Tellement ça vient mobiliser d'autres choses que de comprendre, en fait, de faire ça. Voilà, donc nous vivons dans un pays où il est de coutume d'apprendre à lire au CP. Alors au CP, on y rentre, on a entre, en gros, 5 ans et 9 mois et 6 ans et 9 mois. Selon si on est né en décembre, en janvier ou entre les deux. Donc, assez tôt, finalement. Et il y a un peu une pression, quand même, hein, de se dire, bon, alors, est-ce qu'il sait lire, hein? Est-ce qu'en février ou en mars, là, au CP, ça y est, est-ce qu'il sait lire, hein? S'il ne sait pas lire, bon, ça craint un petit peu, tu vois. Peut-être commencer à se demander ce qui ne va pas. Bon, en vrai, il y a aussi le CE1 et le CE2, hein, pour consolider la lecture. Mais on sait bien, en tant qu'instit ou en tant que parent, que quand même, c'est plus simple. Hein, si l'enfant, là, il apprend vraiment à lire en CP sans trop de difficultés. Hein, et en général, allez, 80% de la classe, y arrivent bien. Bon, je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, il va y avoir des grosses disparités selon les classes. Mais voilà, donc il y a un peu cette pression qui est là. On peut dézoomer un peu parce que finalement, est-ce que c'est une vérité ça, que c'est à cet âge-là qu'on apprend à lire? Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que c'est dans toutes les manières de voir la pédagogie pareil? Ben non, non, franchement pas. Voilà. Moi, j'aime bien voir les choses que avant la septième année, eh bien, les apprentissages, ils sont principalement informels, y compris l'apprendre à lire et à écrire. Donc là, pareil, bah, c'est pas trop ce qu'on va retrouver dans nos maternelles françaises, puisqu'il y a déjà des injonctions pour préparer à l'apprentissage du lire et d'écrire au CP, et que déjà, on leur demande d'écrire des mots qu'ils entendent, voilà, des mots simples, tu vois, bec, lac, voilà, par exemple, des écrire même si c'est faux, par exemple. En tout cas, on est dans une culture de « ah oui, la maternelle prépare le CP et prépare le lire-écrire ». Alors, on pourrait voir les choses autrement en disant juste « avant cet âge-là, l'enfant, il est dans des apprentissages informels, il apprend par lui-même et il apprend beaucoup en imitant, enfin par lui-même, à partir de ce qui est à sa disposition, bien sûr, de son environnement, mais il apprend en imitant, voilà, et par centre d'intérêt, quoi ». Alors moi j'aime bien ce qu'écrit Rudolf Steiner en fait à ce sujet-là. Hein. Lui, pour lui, c'est septième année, c'est surtout perte des premières dents. Perte des premières dents, voilà, c'est le lancement de l'enfant est prêt à savoir lire et écrire. Ben, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire avant d'intéressant. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'intéressant? Eh bien, pour lui, et à mon sens aussi, de mon expérience avec mes enfants et d'autres enfants, eh bien, ce qui fait du bien aux enfants avant ces 6 ans-là, eh bien, c'est ce qui est joyeux, c'est ce qui est frais, c'est ce qui est poétique, c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait rire, c'est ce qui fait sourire, c'est ce qui rend heureux, quoi. Voilà, ça va lui faire du bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce registre-là? Eh bien, on peut jouer avec la langue. Hein, s'amuser à faire des rimes, s'amuser à inventer des poèmes rigolos. Alors, ça a besoin que ce soit l'enfant, on va pas demander à l'enfant de créer ça. S'il y en a qui vient, tant mieux ici. Mais c'est à nous de lancer ça. Hein. Notamment, je vous parle souvent des jeux écoute. Ben, en jeu écoute, voilà, moi je vais venir lancer des rimes. Je sais pas si j'ai envie qu'ils m'aident à vider le lave-vaisselle, ben, je vais faire des rimes d'un seul coup avec le lave-vaisselle. Et ça se trouve, il le videra pas, c'est un autre truc, mais. Apporter voilà, les rimes dans la vie, jouer avec la langue et leur raconter des histoires. Alors moi aussi, j'aime bien à ce moment-là qu'on leur invente des histoires. Hein. Est-ce que vous êtes déjà pris à ce jeu-là, inventer des histoires? Alors pour ça, on peut tirer des cartes. Alors, par exemple, dans un jeu de Time's Up, là, il y a plein de petits mots. On peut... Alors pas le Time's Up avec les personnages célèbres, celui avec les images ou celui avec les mots du quotidien pour les plus jeunes. Il y a des jeux comme Imaginer, il y a des jeux comme Dixit. Enfin voilà, il y a plein de jeux où on va pouvoir... prendre, piocher, et hop, on en pioche 3 par exemple, cartes, et allez, on se lance le défi, on invente une histoire avec ça. Ou juste, moi je mets en scène, tu vois, le soir, là, tu vois, ben non, tu vois pas, on est à la radio, et hop, je mets la main dans les ciels, je dis, voici une petite histoire que les anges m'ont envoyée, et je la mets dans ma bouche, et puis hop, je commence. En fait, ce qui est le plus dur, c'est un peu comme aller à la piscine ou sauter à l'élastique, c'est de commencer, c'est de faire la première phrase. Une fois après, quand on est parti, bah, ça vient, ça coule. Alors peut-être que vous dire, quoi, inventer de l'histoire? Mais non, moi, j'ai pas du tout d'imagination, j'ai pas du tout créatif. Blablabla. En fait, le truc, c'est de s'y mettre. Et une fois qu'on s'y est mis, bah, on y prend goût. Et regardez la différence entre vous lisez un livre, là, de super album de littérature de jeunesse, votre enfant, regardez ses yeux, sa tête, et maintenant, vous lui inventez une histoire. Eh bien, ça fait pas la même chose. Hein. En fait, c'est beaucoup plus vivant quand on vient raconter une histoire. Alors, si on est vraiment à sec, on a un peu de mal avec l'exercice, eh ben, on peut aussi lire nous-mêmes une histoire et après la raconter. Ça la rend beaucoup plus vivante aussi. Ensuite, eh bien, à cet âge-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais d'un seul coup, ils vont être complètement... ils vont avoir une super envie de découvrir les chiffres. Voilà, ça va durer, je sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines. En ce moment, mon fils de 4 ans, il a juste envie de mesurer, compter. Il prend un téléphone qui marche plus, il fait les chiffres dedans. Il prend un mètre, il mesure. Il prend un minuteur, il regarde le temps qui s'écoule. Voilà, juste il est à fond de ça. Et là, les lettres, en ce moment, ça ne l'intéresse pas. Mais avant, il y a eu une autre période où c'est les lettres qui l'intéressaient. Voilà, ils ont un peu des périodes comme ça. Bah, c'est important d'être à l'écoute de ça. Et quand ils sont dans une période où ils ont envie de découvrir les lettres, eh ben c'est y aller avec eux, en répondant à leurs questions. Et là, attention, c'est super important à mon sens de répondre à leurs questions, mais ne pas aller leur en poser. Hein, pareil, s'ils demandent c'est quoi cette lettre, bah, c'est un B. Ouais, le B de ballon, et puis on peut faire des petits rimes, des petits jeux de mots, on peut lancer si on veut. Mais s'ils ne posent pas de questions, nous, on va pas aller lui dire « Et là, tu as vu ça? C'est quoi ça hein? Mais si, rappelle-toi, je te l'ai dit ce matin. Bah oui, tu vois bien, j'ai un B là. » Non, on part pas sur ça, en fait. De manière générale, tout le temps, en fait, avant, sur cette période informelle, on répond à leurs questions, mais c'est pas nous qu'allons leur en poser. De manière générale, j'aime pas poser une question à un enfant dont je connais la réponse. Par contre, je peux lui dire « Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu as envie de... » Voilà. Mais je ne vais pas dire « C'est quoi ça ?» Mais non, je le sais, c'est bon. Enfin, moi, quand je vois des adultes faire ça, prendre le livre, « C'est quoi ça ?» Enfin, vraiment, les enfants pour des idiots. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant là, avant ses 6 ans? Eh bien, on peut écrire des histoires aussi. Donc les poèmes, les histoires, on peut avoir un livre dans lequel on va écrire les petits poèmes qu'on invente, les rimes rigolotes, s'il y a une histoire qui lui a plu. Alors des fois, il y a des histoires qu'on invente, ils ont envie qu'on raconte la suite, ils ont envie qu'on y revienne, et des fois, moi, ils me bluffent, en fait, ils les re-racontent. Tu vois. Et bien, quand il y en a qui plaisent, comme ça, on peut en faire un recueil, on peut les écrire. Donc là, l'enfant, il nous voit en train d'écrire. Parce que, en effet, ce qui va pouvoir aider, c'est qu'il voit le lire et l'écrire pour de vrai. Aussi, quand l'enfant est en train de dessiner, eh bien, il est en train de faire ses premiers pas pour écrire. Bah, déjà, évidemment, c'est flagrant au niveau de motricité fine. Il apprend à tenir un stylo et il apprend à faire des traces. Mais donc, dessiner, c'est déjà faire des traces et c'est déjà vouloir communiquer quelque chose. Donc, c'est les prémices de l'écriture. Et d'ailleurs, souvent, on voit au bout d'un moment, l'enfant, hop, il dessine, et puis hop, il enchaîne, il fait des boucles, des ponts, là, puis il vient et il dit « Ah, j'ai écrit ça ici !» Alors là, il s'agit pas de lui dire, comme pourrait faire un grand frère, une grande sœur de 8 ou 9 ans, bah non, pas du tout, t'as pas du tout écrit ça. Ah oui, t'as voulu écrire ça, d'accord. Alors, est-ce que ça te dirait que je prenne un crayon papier là et que je vienne écrire la phrase que tu m'as dite? Comme ça, on s'en souviendra, comme ça, on pourra la communiquer. Voilà. Là, on est en train de soutenir. Moi, je me rappelle de ce moment-là, pour la première fois, j'avais fait des ponts et des L et j'avais dit à mes parents, j'ai écrit Emmanuel, c'était le nom de ma petite voisine. Bon, j'avais pas du tout écrit Emmanuel, mais pour moi, j'avais écrit Emmanuel et c'était fantastique pour moi. Après, quand on est au moment de présenter les lettres, alors chez Steiner, en fait, on va inventer des histoires avec des allitérations ou des assonances. Vous savez ce que c'est, allitération, assonance? Oui, c'est quand on va répéter un son voyelle ou un son consonne. Hein. Par exemple, on va faire une histoire avec plein de un bébé baleine qui boit beaucoup de je ne sais pas quoi en faisant des bulles et en jouant au ballon et à la balle. Enfin voilà, on a mis plein de B par exemple. Ça n'a ni queue ni tête ce que j'ai dit, mais c'est venu comme ça. On essaie de faire mieux. Et voilà, raconter des histoires pour faire venir la lettre comme ça. Et aussi faire un dessin et dans un dessin va apparaître. Par exemple, on va raconter une histoire de papillon. Et le papillon, eh bien, on va faire apparaître un P dans les ailes du papillon. C'est beau, hein? Voilà, tout ce qui est poésie, tout ce qui est beau, en fait, tout ce qui est frais, qui est joyeux, va faire du bien à l'enfant et va le mettre dans un élan comme ça, d'avoir envie d'aller découvrir, le lire et l'écrire. Et aussi, après, il nous dit d'aller vivre physiquement la lettre. Voilà. Donc, la lettre, de la tracer et, au sol, par exemple, et d'aller courir sur le chemin de cette lettre pour la vivre physiquement. Et d'ailleurs, j'ai vu spontanément ce matin avec mon fils de 4 ans que je jouais, on mettait de la musique et puis comment on me fait danser cette musique. Et au bout d'un moment, il m'a dit « Ah, c'est pas facile à écrire un 8 ». Et en fait, en marchant, il était en train d'écrire un 8 ou dans l'espace où on était. Voilà. Donc la même idée, venir écrire les lettres en marchant dessus, en courant dessus. Alors, il existe aussi tout ce qui est les jeux visuels. C'est vrai qu'augmenter l'empan visuel, c'est-à-dire la largeur qu'on est prêt à voir en même temps avec nos yeux, va aider après quand on est en est à lire. Et il y a des jeux qui sont bien pratiques comme ça, comme le jeu du lynx, le double aussi, la discrimination visuelle avec le double, l'Annie Jumble, le jeu de Kim. Voilà. Je dirais attention de ne pas les mettre trop tôt, ces jeux. De manière générale, hein, les jeux de société avec des règles où on perd, on gagne, attention de ne pas les mettre trop tôt parce que les enfants, quand ça naît trop tôt, juste ils n'en sont pas là et ça peut les mettre pas très bien. Mais on peut jouer avec eux, en tout cas sans qu'il y ait de compète, quoi, sans qu'il y ait de gagnant, de perdant, à des jeux avec des images où on va les reconnaître. Voilà, ça va faire du bien aussi. Alors, il existe un coffret à la mode qui s'appelle les Alphas. Jusqu'en septembre dernier, je ne voulais pas du tout toucher à ça, me dire un truc commercial et tout de plus. Bon, je l'ai quand même acheté pour voir, en fait. Et alors, j'ai trouvé un intérêt à ces alphas, c'est qu'ils font vivre les lettres. Voilà. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, faire vivre les lettres, raconter des histoires avec, raconter des personnages avec les lettres et les avoir là en petite figurine sous la main, eh bien, ça fait du bien, ça fait envie, et ça éveille, clairement. Alors après, cette boîte-là, franchement, l'histoire, bah, elle n'est pas à mon goût, le graphisme n'est pas à mon goût, et les lettres, voilà, que le M, ce soit un monstre, enfin bon, pour moi, c'est pas très raffiné, on va dire. Je rêverais de pouvoir faire des alphas bah, plus jolis que ça, voilà, clairement. Si jamais il y a une boîte de fabricants qui a envie d'en faire une avec moi, je suis partante. Mais ça a vraiment cet intérêt de faire vivre les lettres. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous aussi, vous êtes né dans les années 80, vous vous rappelez comment les lettres, elles vivaient et elles étaient joyeuses et chantantes ?
Apprends l'alphabet en chantant, apprends l'alphabet en riant, apprends l'alphabet en jouant, pour qu'un jour tu deviennes la plus grande. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.
Je suis sûre qu'il y en a qui ont revu le poussin avec son œuf, les masques d'air, les enfants, les jolies robes blanches. Eh ben, ça peut paraître peut-être un peu niais, mais en fait, c'est ça. Ça m'était du bonheur, de la joie, de la gaieté, de la chanson. En plus, quand on apprend en chant, en rythme, comme ça, ben, on retient mieux. Voilà, donc je vous dis pas d'aller acheter le CD de Chantal Goya. C'était pour mettre un petit peu de musique et des bons souvenirs dans cette émission. Alors voilà, après l'enfant, au bout d'un moment, bah, il perd ses dents et il paraît que là, bah, il est prêt à apprendre à lire et à écrire. Bon, donc j'ai dit, il est motivé, d'autant plus s'il voit, hein, s'il voit les gens autour de lui lire et écrire pour de vrai, parce qu'il voit bien qu'il y a un pouvoir avec ça, hein, celui qui est capable de lire, d'écrire, ben vraiment, c'est une autre vie, c'est un autre monde qui s'ouvre. Alors ça vient le motiver. Hein, si on est dans un endroit où personne lit, personne n'écrit, bon, c'est peu probable, hein, mais on est plus ou moins exposé à ça, et ben ça diminue la motivation, clairement. Et aussi, ce qu'il va faire, qu'il va apprendre à lire, ben, c'est qu'il soit bien accompagné, hein, au niveau relationnel, émotionnel, parce que ce n'est pas qu'une mécanique d'apprendre à lire, ce n'est pas qu'un béaba à comprendre, c'est aussi se mettre dans ces dispositions-là et en être capable. Hein. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'enfant, ben, il ne va pas se mettre à lire ? Eh bien, déjà, ça a pu arriver trop tôt. Moi, j'avais 5 ans et 9 mois à m'entrer au CP. Franchement, c'était trop tôt. En plus, je vivais dans un univers où il n'y avait pas trop de lecture-écriture autour de moi. Eh bien, c'était trop tôt. Voilà. Et j'ai eu envie assez vite d'être une bonne élève. J'ai à peu près compris le décodage, mais je ne comprenais rien de ce que je disais. Et j'ai pris goût à la lecture seulement à l'âge de 15 ans, par exemple. Donc attention, quand c'est trop tôt, eh ben, là, on peut venir créer du stress, de la pression et demander des choses qu'on n'est pas encore capable de faire. Et oui, là, ça peut vraiment nuire en fait, à l'apprentissage. Et bien aussi, bien sûr, l'enfant il peut avoir des émotions difficiles en lui, des blocages, et sa pyramide des besoins fait que ben non, tant qu'il n'a pas pu sortir ses gros morceaux, apprendre à lire et à l'écrire, ça lui passe bien au-dessus, là-haut. Donc déjà, un accompagnement émotionnel. Donc ça, vous pouvez vous reporter à toutes les premières émissions que j'ai faites sur les sujets des émotions. Voilà. Autre chose que j'ai déjà vu aussi, c'est quand il y a un des parents qui est illettré ou qui a vraiment des très grandes difficultés à lire et à l'écrire, l'enfant peut ne pas vouloir savoir faire mieux que ses parents. Ça, c'est un gros truc. Voilà. Il y a aussi l'enfant qui a peur qu'une fois qu'il sait lire, eh ben, les parents, ils liront plus. Ils liront plus d'histoires. Bon, on peut le rassurer là-dessus. Hein, continuera de lire des histoires et de raconter des histoires, même quand il saura lire. Également, ce qui peut venir bloquer un apprentissage, ben, c'est un peu les méthodes acharnées, on va dire. Les méthodes qui vont être très mécaniques et on en remet une couche. T'as pas compris le B à B ? Allez, on en remet une couche. Je dis pas qu'il faut pas apprendre aux enfants que B et A, ça fait bas, y a pas de souci. Mais attention, si on s'enfonce là-dedans et il y a quelque chose qu'il comprend pas, cet enfant, c'est pas sa manière d'apprendre. Il a besoin de passer plus par du kinesthésique, par de l'auditif, de toucher, je sais pas. Et soit c'est parce qu'on a des blocages émotionnels qui sont là derrière et tout ce qu'on va faire, c'est créer encore plus de stress et de pression. Et on va rien aider du tout. Bon, il peut aussi arriver qu'il y ait un problème relationnel, un problème relationnel avec la personne qui apprend à lire et à écrire. Et là, voilà. Et si on se sent complètement en désamour avec cette personne-là, ça va pas du tout aider. Et au contraire, quand on se sent vraiment en connexion, en amour, en confiance avec la personne qui nous apprend ça, là, ça va beaucoup, 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 beaucoup aider. Au passage, il n'y a pas de 10, dyslexie, 10, orthographie, 10, tout ce qu'on veut, sans stress. Ça, c'est une étude qui le montre. Tous ces 10-là arrivent parce qu'il y a du stress. Trop tôt, pas de la bonne manière, blocage émotionnel, tout ça. Voilà. Et c'est pas parce que « Ah, mais moi aussi, j'étais dyslexique, alors c'est normal, mon fils, il est aussi... » Non, il n'y a rien de normal à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ? Une fois que l'enfant y rentre, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à lire et à écrire ? Alors, moi, je dirais, faites un temps spécial avec lui. Vous lui donnez, vous mettez un chrono, 12 minutes, c'est parti, je fais que ce que tu veux. Ouais, voilà, qu'il se sente en connexion, qu'il se sente bien. Pas le lancer direct sur les devoirs. Alors, au passage, les devoirs écrits, c'est censé ne plus exister depuis 1956, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, prendre un temps spécial. Vous vous retrouvez dans les autres émissions, j'en parle, ou sur mes vidéos sur Internet, sur ma chaîne YouTube Émilie Roudier. La connexion avant tout. Et puis, si l'enfant il est déjà rentré dans quelque chose d'un peu difficile autour du lire-écrire, c'est faire des jeux écoute avec lui. Donc, réussir à rire avec lui, où on va remettre en scène des situations. Alors, si c'est un enfant qui ne veut pas apprendre à lire, j'ai décidé de ne pas apprendre à lire, dans le jeu, nous, on va venir imiter un enfant qui ne veut pas apprendre à lire. Et puis, si ça fait rire l'enfant, bam, c'est bon, allez, on continue, on en remet une couche. On peut aussi mimer, s'il y a un adulte qui met trop de pression là-dessus, on va pouvoir mimer cet adulte-là. Et si on fait rire l'enfant, pareil, on y va. Attention, on ne se moque jamais quand on rit comme ça, quand on veut faire rire. C'est vraiment pour aider l'enfant à rire des situations qui sont difficiles pour lui dans le but qu'il en guérisse. Mais pas rire pour se moquer, jamais, jamais, jamais. Et puis, on va chercher des occasions pour écrire en vrai avec l'enfant. Et si possible, c'est pas parce qu'il a passé les 6 ans qu'on va plus le faire en s'amusant. Donc, trouver des occasions de le faire. Alors déjà, on peut envoyer des cartes pour les anniversaires, on peut envoyer des cartes de remerciement. Il peut écrire la liste de courses. Quand il a un projet, pareil, il peut venir écrire... mettre en forme son projet, de quoi il a besoin. Et puis on peut écrire juste pour s'amuser, faire des faux menus en A par exemple. Alors en A aujourd'hui, asticots à l'ail. En B, beignet bien bouilli. En C, carottes complètement cramoisies. En D, vous voyez l'idée. On trouve des trucs pour s'amuser avec la langue. Et puis, quand on est à l'école, je crois que je pourrais faire une émission entière là-dessus. Allez, quelques pistes quand on est à l'école. Pour l'apprendre à lire et à écrire, la connexion avant tout, pas de pression. Et puis en plus de tout ce que j'ai déjà dit, mes chers amis instits, si vous pouviez faire attention à ces fameux questionnaires, si jamais il y en reste encore dans les écoles, ces questionnaires de « est-ce que tu as bien lu ?» Oh là là, quelle tristesse, ça fait mal, ça pique. On peut voir vraiment ça autrement, parce qu'il y a aussi il y a le apprendre à écrire purement, puis après il y a, à écrire et lire, les deux, et après il y a lire des livres. Moi, quand j'étais instite en CE2, CM1, CM2, j'avais pris cette manière de faire. J'avais fait une liste sur l'année de livres à lire. Alors, sur l'année ou sur les 2 ans, CM1, CM2. Toute une liste que des livres que j'adorais, des romans trop bien. Il y en avait, 3, 4 ou 5 exemplaires de chacun dans la classe. Et puis, ils pouvaient les lire à leur rythme. Alors, évidemment, j'accompagnais ça. Et ils pouvaient choisir entre copains-copines de lire les mêmes livres en même temps. Et puis je faisais des parcours de lecture en fait, ceux pour qui c'était trop difficile, surtout au niveau CE2, mais ils avaient quand même envie de lire Le Magicien d'Oz, comme les copains, il y avait des passages que je résumais, comme ça, ça leur permettait de pouvoir suivre. Les enfants qui étaient vraiment en très grande difficulté, ils avaient beaucoup de passages résumés. On peut voir ça comme ça. Et à la fin, je faisais pas des questionnaires. Par contre, j'avais prévu des petits jeux. Hein, des petits jeux, je sais plus comment je faisais exactement, mais sur chaque roman, voilà, y avait des petits jeux où on pouvait voir si on avait compris, pas compris, mais c'était pas pour mettre une note, quoi. Et aussi, on faisait des moments de lecture entre eux, où ils pouvaient discuter du livre, voilà. Ah, moi, j'en suis là. Enfin, voilà, à ceux qui en étaient au même endroit, quoi, de préférence. Mais jamais de pression, pas de « tu dois avoir fini ce livre pour telle date » et pas « il y a un questionnaire à la fin et tu seras noté ». Je me rappelle d'un petit garçon, coucou Maxime, qui m'avait dit « maîtresse, on dirait que tous ces livres-là que tu nous donnes à lire, eh ben, on dirait que tu les aimes ». Bah oui, je donnais à lire que des livres que j'aimais. Moi-même, voilà, ça n'avait pas été très drôle pour moi tout ça, donc je faisais de mon mieux. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre sur tout ça ? Et ben en gros, hein, pas de pression, on ne confond pas lire et lire à haute voix. On va apporter dans la légèreté, la joie, tout ce qu'on veut, la poésie, le fait de raconter, de faire des rimes, de lire... de faire arriver l'écrit aussi après le dessin, hein, bien le dessin, donner toute la place au dessin. Voilà. Allez, je vous mets une petite chanson. On était sur l'école, on va continuer avec un petit peu d'école.
Musique maintenant.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à... faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Oh,
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète.
Terminer mes choux de Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
espérer finir dans le plâtre,
avaler 200 limaces pour effrayer les instits, faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour moi c'est pire que le bagne. Et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les gars.
On veut pas y aller, on préfère rester couché. Pour les mains, pour de la pain, la maîtresse en maille et pas. On veut pas y aller, on préfère rester couché. Les guerriers au feu, ma maîtresse au milieu.
Habiter dans les toilettes, provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé pour attraper les boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Laurie en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâtée du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
C'était Aldebert pour louper l'école. Allez, ce que je vous propose, parents instits, c'est de vous poser cette question. Est-ce que je mets de la pression aux enfants ? Qu'est-ce que je fais qui est rébarbatif, qui est pénible ? Qu'est-ce que je leur propose ? Un petit souvenir des bleds, là, par exemple. Bon, c'est sur l'orthographe grammaire, c'est autre chose, mais... ah, est-ce que c'est pas un peu... voilà, ou si je suis en école à la maison, est-ce que ce fichier que j'ai choisi, là, c'est pas un peu pénible, hein ? En tout cas, là, en école à la maison, ma manière de voir les choses, c'est de lire et écrire à partir des histoires et à partir de notre vécu. Mais loin de moi l'idée de prendre un manuel, ou non. J'en ai pas parlé de ces histoires, plus précisément. Pour moi, c'est hyper important, en fait, de raconter aux enfants les contes, les fables, voilà, tout ce qui apporte du sens, en fait, à la vie. Hein. Même, je sais que le mot moral a pu faire peur à un moment, mais vraiment, dans ces contes, il y a une certaine justesse. Il y a plein de choses importantes, en fait, pour les enfants, pour leur structuration, pour leur compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, la compréhension de ce qui se passe, des relations entre les personnes. Et voilà, donc leur lire, ou encore mieux, leur raconter ces contes, ces fables, ces enseignements de sagesse du monde entier. Alors, chez Prosveta, il y a trois livres inspirés des histoires que racontait Maître Omram, que moi j'aime bien lire à mes enfants, et notamment il y en a un avec un CD, il y a quatre jolies chansons en plus avec. Voilà, bon, et aussi garder en mémoire que quoi qu'il se passe en fait là, les enfants, eh ben ils vont apprendre à lire et à écrire. Hein. C'est très très rare, j'ai vu un enfant dans ma carrière qui pouvait pas, mais il avait vécu des tels traumatismes, tout ça, enfin, il n'y a pas que ça qui n'y arrivait pas. Mais sinon, voilà, ils y arrivent à lire, à écrire. Donc, confiance, hein. Moi, mon fils, il a appris à lire vraiment là, à 8 ans. À 8 ans. Aucune, voilà, pas de chronomètre, même si dans la famille, oh, il ne sait pas encore lire, tu ne l'apprends pas à lire. Mais en fait, maintenant, il sait lire et il lit bien. Ça, j'ai vu aussi des enfants, d'autres enfants hein, comme ça, qui sont mis à lire dans la 8e année, et qui lisaient très bien et facilement des livres, et d'autres à qui on avait voulu apprendre trop tôt, là, à 5-6 ans, et qui annonnaient des choses, et qui, au même âge, ben, en fait, ils n'y arrivaient toujours pas. Voilà. Donc, comme apprendre à marcher, c'est pas parce qu'on sait marcher à 11 mois qu'on sera champion du 100 mètres. Et bien là, pareil, c'est pas parce qu'on sait lire à 5 ans, je vois des vidéos là, regardez, oui, apprendre vos enfants à écrire, à lire à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, oui. Non, mais il a besoin de ça? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? C'est vraiment ça qui lui fait du bien, là? Tôt, j'ai un petit doute. Et en même temps, de l'autre côté, hein, c'est ne pas, par utopie, se dire non, mais je vais rien faire pour lui apprendre, on fera que de l'informel. Au bout d'un moment, l'enfant, il a besoin de formel aussi, à mon sens, hein, justement dans cette 7e année. Et il ne s'agit pas de faire l'autruche, hein, de se dire non, je ne vais rien lui apprendre, il apprendra lui-même, quand sera le moment et tout. Mais non, il a besoin de nous aussi. Il a besoin de nous qu'on l'aide, qu'on l'accompagne là-dedans. Nous, on sait lire, on a cette expérience, et ben, on est là pour l'aider. Voilà. Et en répondant à ces questions, ça viendra. Voilà. Et bien, j'espère que cette émission vous a apporté des choses. Et je vous dis à bientôt sur...
Radio Vassivière.
À l'écoute de... Élève-toi.
Avec les enfants.
Bonne journée.